France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir, quel engagement citoyen dans la France de 2016. Une France qui reste traumatisée par les attentats des dernières années, des derniers mois et par une menace toujours présente. Après les incidents survenus lors de la minute de silence suite à l'attaque contre Charlie Hebdo en janvier 2015, la ministre de l'Éducation nationale avait lancé un appel aux citoyens pour qu'ils viennent parler aux collégiens et aux lycéens. Des milliers de personnes s'étaient proposées. Certaines sont intervenues devant des classes, d'autres ne l'ont pas fait finalement pour différentes raisons que l'on détaillera dans cette émission qui sera l'occasion de faire le point sur la fameuse réserve citoyenne de l'éducation nationale. On abordera également les autres formes d'engagement civique. Pour en parler à nos côtés, le préfet Yannick Blanc, haut commissaire à l'engagement civique, Latifa Ebenziaten à la tête de l'association IMAT pour la jeunesse et la paix qui intervient dans les établissements scolaires et les prisons. Elle est restée avec nous. Avec nous également au téléphone Jean-Pierre Rosenzweig, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny à la tête du collectif de la réserve citoyenne de l'éducation nationale. Et Marc Dreyfus, qui est proviseur et référent pour l'Académie de Créteil. N'hésitez pas à les interpeller si vous avez des questions sur cette réserve citoyenne de l'éducation nationale, surtout si vous avez proposé vos services ou si vous êtes enseignant et que vous avez vu ces réservistes à l'œuvre dans vos classes. Vous pouvez le faire via franceinter.fr ou sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson. Vous avez aussi le téléphone 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et tout de suite, un premier appel, celui de Marie qui nous appelle de d'Alléfaux. C'est bien ça, Marie? Bonsoir.
Oui, bonsoir. Non, je vous appelle d'Alfortville, dans le Val-de-Marne.
On me met à Alléfaux. Voilà. Alors, effectivement, c'est un petit peu difficile. Alfortville, c'est le Val-de-Marne, c'est pas loin. On vous écoute, Marie.
Tout à fait. Donc, je suis, moi, représentante de parents d'élèves dans l'école de mes filles, et au collège et en école primaire. Et à la rentrée, il nous a été fortement expliqué toutes les consignes de sécurité mises en place suite à l'état d'urgence et aux événements traumatisants que notre pays a connus. Et la question que je me pose, c'est qu'avec toutes ces mesures de sécurité mises en place, qui sont encore une fois, je trouve, tout à fait légitimes et nécessaires, l'école, qui doit remplir un rôle d'ouverture à l'autre, n'est plus en mesure de tout à fait le faire, puisque il est très difficile de pouvoir entrer dans un établissement pour des personnes étrangères, et ça a été très fortement relayé, aussi bien au collège de ma fille que dans l'école élémentaire de ma fille.
Et vous le regrettez?
Oui, très fortement, parce que je suis une parente très impliquée, et aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile.
Et pour vous, ce serait important justement que des personnes extérieures interviennent?
Tout à fait. Moi, je pense que c'est primordial pour apporter aux enfants et même aux équipes enseignantes, je pense, des relais pour pouvoir discuter de tout ça avec les enfants et montrer justement que plusieurs personnes différentes pensent qu'il faut avoir une ouverture d'esprit et une ouverture à l'autre.
Merci beaucoup Marie d'Alfortville. Le préfet Yannick Blanc, qui est haut commissaire à l'engagement civique, va peut-être vous répondre. C'est important effectivement d'ouvrir l'école pour qu'on entende un autre son de cloche.
Non seulement c'est important, mais les équipes enseignantes le demandent. En 2015, nous avions organisé dans chaque département des assises de l'école pour les valeurs de la République. Et dans le département où j'étais préfet à l'époque, le Val d'Oise, j'avais été frappé de voir que à chaque réunion, les équipes enseignantes demandaient du partenariat avec des intervenants extérieurs. Alors, entre-temps, il y a eu les mesures de sécurité. Elles ont été appliquées avec beaucoup de rigueur. Je crois que c'est une bonne chose. Il y a des habitudes de sécurité à prendre, mais il faut aussi savoir ajuster entre les besoins de sécurité et la nécessité d'ouvrir l'école sur la société. Donc, il faut prendre des habitudes, de se faire connaître à l'avance, prendre rendez-vous, organiser son entrée dans l'établissement. Mais aujourd'hui, vraiment, les établissements sont plus ouverts que jamais aux intervenants extérieurs.
Latifa Ebenziaten, vous avez entendu Marie. Vous êtes exactement sur la même longueur d'onde qu'elle. C'est important. Elle salue, j'imagine, des interventions comme la vôtre, vous qui allez dans les écoles.
C'est important parce que je vous assure, moi quand je fais des conférences à travers les élèves, il faut voir l'écoute. Et à chaque fois, les profs, ils me remercient, ils me disent « Madame, le travail que vous faites en 2 heures, nous on peut le faire en 6 mois. Alors c'est important pour nous, tout ce que vous apportez. »
Alors, on va parler de cette réserve citoyenne de l'éducation nationale avec également Jean-Pierre Rosenzweig et Marc Dreyfus qui sont au téléphone avec nous. Peut-être un point d'abord sur le nombre de personnes qui ont répondu au fameux appel qui avait été lancé en janvier 2015. Qui veut répondre, Marc Dreyfus, j'imagine. Moi, j'ai vu qu'il y avait 7800 personnes qui avaient répondu à l'appel qui avait été lancé à l'époque par Najat Vallaud-Belkacem.
Oui, bonsoir madame, bonsoir madame et messieurs. Absolument, nous avons, l'éducation nationale, nous avons eu vraiment énormément de personnes qui se sont portées candidates, 7851 à l'heure où je vous parle, et pour vous donner le chiffre sur l'Académie de Créteil, 508 réservistes. Donc c'est quand même avec une majorité d'hommes, puisque nous avons 60% d'hommes et 40% de femmes.
Et combien de personnes sont effectivement intervenues globalement sur toutes celles qui s'étaient présentées? À peu près les trois quarts des candidatures ont été retenues globalement, vous le savez ça?
Oui, bien sûr, je le sais, évidemment je le sais. Donc sur la France, on a actuellement 5700, je suis à peu près dit, 5700 candidats qui ont été validés, et on en a encore un bon nombre qui sont en attente de validation, puisqu'en fait, pour valider la candidature d'un réserviste citoyen, nous avons 2 mois pour le faire. Nous essayons bien sûr de le faire rapidement, mais ça peut prendre quelques temps, aussi un temps d'échange avec le réserviste pour évaluer un peu ce qu'il présente sur sa fiche, sur ses compétences, essayer d'améliorer parfois la fiche qu'il a présentée parce qu'elles sont souvent trop succinctes. Donc l'idée, c'est de prendre du temps pour discuter, échanger et affiner au mieux pour avoir une fiche qui soit la plus complète possible pour chacun de nos réservistes.
Parce que j'imagine on ne met pas n'importe qui devant une classe. Jean-Pierre Rosenzweig, bonsoir à vous.
Oui, bonsoir.
En ligne également, ancien président, je le disais, du tribunal pour enfants de Bobigny. Vous êtes à la tête du collectif de la réserve citoyenne de l'éducation nationale. C'est important de trier, entre guillemets, les candidats?
Oui, bien sûr. Je crois que c'est normal que l'éducation nationale, qui sélectionne les enseignants, qui est vigilante sur les programmes, soit aussi vigilante sur les personnes qui se proposent, même si c'est à sa demande, de venir participer à des démarches éducatives. Simplement, je voudrais nuancer légèrement ce que disait Marc Dreyfus tout à l'heure. Bien sûr que c'est important que 7700 personnes se soient portées candidates, mais somme toute, regardons bien, par rapport à 42 ou 45 millions d'adultes français, c'est peanuts, c'est relativement peu. La dynamique aurait dû être bien plus importante. Alors, prenons les 5000 qui ont été agréés, les 5500 qui ont été agréés, et il faut effectivement que ceux-là, régulièrement, puissent participer de projets éducatifs montés dans l'établissement scolaire, mais j'ajoute aussi de projets qui peuvent être montés en périscolaire avec les municipalités, avec les centres sociaux. La réserve d'éducation nationale n'a pas vocation simplement à intervenir dans l'établissement. Deuxièmement, elle n'a pas vocation seulement à intervenir auprès des élèves, elle peut intervenir auprès des enseignants. Personnellement, je suis intervenu plusieurs fois dans des établissements avec, en face de moi, 70-80 enseignants avec lesquels on a parlé, République, institutions et les grands thèmes actuellement qui préoccupent les jeunes, droits et devoirs, j'en passe, et des meilleurs.
C'est vrai que vous dites 7800, c'est pas énorme dans un pays comme la France, mais c'est vrai que peut-être qu'on n'a pas relayé non plus suffisamment la publicité, fait de publicité sur cette démarche. Peut-être aussi que certains se sont découragés parce qu'il y a eu quelques flottements dans l'organisation, faut le dire.
Non, mais il y a plein d'explications qui peuvent effectivement venir pour comprendre pourquoi ce chiffre est aussi peu élevé, tout somme toute, mais faisons avec les 5500 ou 6000 qui ont été agréés et c'est tout l'enjeu politique sur cette deuxième année, c'est de monter en puissance. La première année, il faut reconnaître que c'est difficile. Il y a eu la double série d'attentats, le dispositif, il fallait le monter, il fallait réouvrir l'école quand un certain temps elle s'était fermée, il fallait intégrer ces personnes qui se portaient volontaires dans des projets pédagogiques qui n'existaient pas ou qui existaient, dans lesquels ils n'avaient pas a priori leur place. Bon bref, le temps, éducation nationale n'est pas le temps de monsieur et madame tout le monde. Il faut reconnaître aussi que des gens qui se portent volontaires pour intervenir dans les investissements scolaires et qui ne sont pas mobilisés dans les 5 minutes sont frustrés, ils ont le sentiment qu'on les néglige, etc. Donc il y a eu beaucoup de difficultés techniques, psychologiques dans le montage du dispositif. Je crois que maintenant, il est sur les rails, il peut bien fonctionner. Moi, j'ai vu autour de moi les réservistes que nous connaissons et qui sont adhérents de l'association sont régulièrement mobilisés. Ils participent de projets et je pense que demain, dans une deuxième ou troisième phase, ils vont, organiser des projets avec les enseignants. Ils vont pas seulement venir répondre à des attentes, mais ils vont suggérer des démarches de réflexion sur la République, sur la citoyenneté, sur l'engagement, des choses dont les enfants, les jeunes raffolent d'avoir en face d'eux des adultes qui, ne dénigrent pas, qui sont positifs, qui sont constructifs, qui chef d'entreprise, qui magistrat, qui artisan, qui sportif, qui chercheur, enfin j'en passe, et les meilleurs journalistes, tous ces gens-là qui quelque part y croient, hein, malgré les difficultés de la vie. Et la vie, c'est pas facile, même si on a fait des études et qu'on a une situation sociale, la vie, c'est pas facile. Et ces gosses, ces jeunes, ils ont besoin de croire, d'avoir des perspectives, d'avoir une dynamique devant eux.
Alors effectivement,
ce qu'on peut apporter, nous, c'est ça.
Alors justement, on va peut-être écouter maintenant un témoignage de quelqu'un qui s'est engagé dans la réserve citoyenne. C'est Jean-Marc qui nous appelle de Seine-Saint-Denis. Bonsoir Jean-Marc.
Oui, bonsoir, je suis Jean-Marc Minetto, je suis président des Dédévennes de Seine-Saint-Denis. Notre association a été nommée en fait ambassadrice de la réserve citoyenne, et donc à ce titre, je suis réserviste de l'Académie de Créteil. Je suis intervenu lors des semaines de l'engagement qui ont eu lieu il y a quelques semaines auprès de lycée de Seine-Saint-Denis. Ces interventions, en fait, je pense qu'elles ont été très bénéfiques et pour les élèves et pour les intervenants. Il y a eu des échanges très forts, des choses qui nous ont beaucoup questionnés. Pourtant, on s'est quand même rendu compte que les enseignants ne connaissaient pas ces dispositifs. C'est-à-dire que pour eux, il y avait des intervenants qui venaient, mais la notion de réserve citoyenne, ils ne la connaissent pas, même si sur leur portail e-prof, etc., ils y ont accès. J'ai un fils qui est jeune enseignant à Seine-Saint-Denis et à qui j'ai questionné en disant, voilà, est-ce que tu demandes à ce que cette réserve intervienne? Et il me dit, mais tu sais, papa, on est tellement sollicité par des projets, qu'on en zappe beaucoup. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Il y a également d'autres types d'interventions qui peuvent se faire. Par exemple, je vais prendre l'exemple de ce matin. Ce matin, c'était les commémorations du 11 novembre. Et dans beaucoup de lieux, il y avait beaucoup de classes qui étaient présentes, beaucoup d'élèves, qu'on chantait la Marseillaise, qu'on saluait les porte-drapeaux, etc. Autre chose, il y a bientôt la semaine du 9 décembre, hein, qui est la semaine qui va commémorer la loi de 1905. En Seine-Saint-Denis, par exemple, on plantera 6 arbres de la laïcité dans 6 lieux différents, avec des élèves et avec des conseils municipaux jeunes. Donc il y a plein de choses sur lesquelles on peut s'appuyer.
Eh bien, merci. Oui, Jean-Marc, on vous écoute.
C'est comment est-ce qu'on peut faire pour mieux faire connaître et mieux faire fonctionner, en fait, ce beau dispositif qui est la réserve citoyenne? Comment en faire un vrai bel outil? Voilà.
Ah ben, la question. Merci, Jean-Marc, pour ce témoignage et cette question. La question, on la pose au préfet Yannick Blanc, au commissaire à l'engagement civique, puisque lui, il est là pour coordonner tout ça, Yannick Blanc.
Oui, c'est vrai que le paysage des possibilités d'engagement civique est en train de s'enrichir, de s'élargir, et que ça peut donner un peu un sentiment de confusion. Il y a en même temps la garde nationale, c'est-à-dire le doublement des réserves opérationnelles de la défense, de la gendarmerie et de la police. Il y a les réserves citoyennes qui existent déjà, dont celle de l'éducation nationale. Nous allons lancer au début de l'année prochaine la réserve civique, qui sera une réserve généraliste, ouverte à tous les citoyens, organisé dans chaque département. Il y aura d'autres réserves thématiques, puis il y a le service civique. Nous allons devoir faire un effort de clarification de cette offre, mais le but de cette politique, c'est que les citoyens, quel que soit leur niveau de formation, leur diplôme, leur disponibilité, leur volonté d'engagement, trouvent un moment, une occasion, un projet sur lequel ils puissent participer à ce mouvement d'engagement. On le sent bien dans l'ensemble de la société. On en parlait tout à l'heure avec Latifa Imdiaten. Il y a une demande, hein. Il y a une envie de s'engager, de faire quelque chose pour faire vivre la fraternité. Et donc, il faut qu'on adapte les possibilités de s'engager aux possibilités des citoyens. Vous savez, dans le monde associatif, il y a déjà 16 millions de bénévoles, il y a beaucoup d'expérience, et les responsables d'associations savent qu'aujourd'hui, pour avoir des bénévoles, il faut leur offrir des actions qui sont bien formatées en fonction de leur disponibilité, de leur capacité d'action. C'est cela qu'il faut arriver à faire avec les réserves.
On voit que depuis la suppression du service militaire, effectivement, il y a une sorte de vide. Vous, Latifa Ibn Ziaten, vous l'avez regretté, la suppression du service national ?
Ah, tout à fait.
Vous pensez que c'était une bonne chose ?
Le service militaire, c'est important. C'est important pour l'enfant. Aujourd'hui, malheureusement, c'est là où on apprend la discipline, le respect, le vivre ensemble, etc. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Et c'est dommage, parce que les parents, l'école et les services militaires, là, vraiment, ça manque.
Ça manque. Yannick Blanc, vous êtes d'accord ? Enfin non, le monde a changé, les formes d'engagement ont changé.
Le monde a changé, le service militaire a été suspendu, pour reprendre l'expression officielle, à la demande des militaires eux-mêmes, qui estimaient que gérer cette masse de jeunes conscrits, c'était plutôt une entrave qu'un atout pour les guerres qu'il faut mener aujourd'hui, qui sont des guerres technologiques, des guerres de professionnels. Mais il manque ce moment, effectivement, du parcours de formation des jeunes, d'engagement, où on a apprend un certain nombre de valeurs, le service civique va progressivement rendre ce service. L'expérience que nous avons du service civique, nous avons hier avec le président de la République accueilli le 160 millième jeune en service civique depuis 2010, et cette forme d'engagement est en train de porter ses fruits. C'est une nouvelle forme de découverte de la rigueur, de la discipline, du service aux autres.
Avec un bémol peut-être, Yannick Blanc, et là je me fais quand même porte-parole de ceux qui critiquent le service civique. C'est très beau sur le papier, mais il y a quand même dans la pratique des gens qui vous disent c'est de la main-d'œuvre à bon marché, il y en a qui en profitent, quoi.
Le service civique, c'est pas très beau sur le papier, c'est très beau quand on voit les jeunes volontaires. C'est très beau dans la pratique. Et s'il y a eu effectivement un certain nombre de dérapages qui ont pu se produire, je peux vous dire que c'est vraiment l'exception et pas la règle, parce que les missions de service civique, l'agence du service civique y veille, les missions de service civique, elles sont sur des projets qui ne sont pas l'activité habituelle des organismes.
On repart au Standard de France Inter. Aldo est en ligne. Bonsoir Aldo.
Bonsoir.
Vous souhaitiez intervenir ?
Oui, simplement pour un peu reprendre des éléments qui ont déjà été dits. C'est-à-dire qu'en fait, je suis moi un peu déçu parce que je me suis inscrit à la réserve citoyenne de l'éducation nationale il y a déjà maintenant quasiment 2 ans. Et j'ai été sollicité qu'une seule fois. Et je trouvais ça un peu décevant parce qu'en fait, je pense que c'est une très très bonne idée. Donc, qu'est-ce qui explique finalement ce manque de motivation ? Enfin, pas de motivation, mais en tout cas ce manque de sollicitation de la part soit des enseignants, soit des proviseurs, soit d'autres. Voilà, c'était ma question.
Alors, on va se retourner peut-être vers Marc Dreyfus, qui est un des référents de l'éducation nationale pour l'Académie de Créteil, mais qui a une vision d'ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu d'improvisation ? On en parlait tout à l'heure. Est-ce que l'appel Marc Dreyfus n'a pas été lancé sous le coup de l'émotion, sans trop de préparation au départ ?
Ben, écoutez, vous savez, cet appel a été lancé dans un grand élan de générosité, de solidarité nationale, et c'était vraiment une belle chose que de faire ça quelques semaines, quelques mois après ces événements si dramatiques. Et effectivement, nous avons construit, le président de la République l'avait dit lui-même, il ne s'agissait pas de plaquer un nouveau dispositif et de l'imposer dans les établissements scolaires, mais vraiment de construire, en tant que citoyen, en tant que réserviste, en tant que citoyen, construire un nouveau projet qui permettrait de, comme le disait Jean-Pierre tout à l'heure, d'apporter une parole différente à des élèves, de permettre à la société civile de rentrer à l'école pour aborder un certain nombre de thèmes. Alors au début, effectivement, les collègues enseignants, chefs d'établissement, étaient, excusez-moi du jeu de mots, un peu sur la réserve. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore nouveau qu'on veut nous imposer ? On n'impose absolument rien. C'est basé sur le militantisme, le bénévolat, c'est basé sur la bonne volonté, mais aussi sur des capacités, des compétences que développent les réservistes. Et donc, chaque enseignant est libre d'adhérer et de monter un projet autour de la réserve citoyenne. On ne cherche pas à l'imposer. Donc, les choses se sont faites progressivement. Il a fallu faire nos preuves. Souvent dans l'éducation nationale, comme ailleurs d'ailleurs je suppose, mais enfin moi je travaille dans l'éducation nationale, souvent les choses démarrent lentement, puis progressent. Je me rappelle encore par exemple une époque lointaine, maintenant celle des TPE, hein, des travaux faits par les élèves de première. Au début ça a suscité beaucoup de résistance, de défis, et puis finalement tout le monde est très content. Donc laissons du temps à la réserve citoyenne pour se développer, pour fonctionner. Je tiens à vous dire que toutes les expériences sur notre académie, mais je crois que je peux parler sur la nation entière, toutes les expériences sont positives. Nous n'avons que des retours positifs. Les enseignants, les réservistes sont très contents. Alors, pour un petit peu susciter la motivation et un peu avancer sur le nombre d'interventions, effectivement, nous avons trouvé une idée. Tout simplement, c'est de utiliser les journées un peu thématiques, par exemple la journée du 9 décembre sur la laïcité, par exemple les semaines de l'engagement, par exemple la mobilisation contre le harcèlement. Cette année, c'était une journée très importante sur le cyberharcèlement. Nous avons donc réuni un ensemble de réservistes qui étaient spécialisés sur le thème et nous avons préparé des interventions avec eux. Et ensuite, nous avons proposé aux établissements scolaires, aux écoles, aux collèges et aux lycées, évidemment, des intervenants pour venir faire cette intervention. Et par exemple, sur l'Académie de Créteil, nous avons eu 60 interventions qui se sont faites sur les semaines de l'engagement. Donc je crois que c'est en structurant encore plus notre outil, en prenant des thématiques très précises et en les proposant aux établissements scolaires, à des réservistes qui sont de mieux en mieux préparés, qu'on va avancer. Et pour ça, on a les associations ambassadrices. En particulier à Créteil, nous travaillons avec la Ligue de l'enseignement et nous avançons ensemble. Et je trouve ça plutôt pas mal. Cet empirisme-là me plaît et je crois que c'est comme ça qu'on va avancer.
Merci beaucoup, Marc Dreyfus. On va repartir au standard. On a, je crois, Karine qui est en ligne à présent. Bonsoir, Karine. Non, Karine n'est pas en ligne avec nous, mais je pense que Jean-Pierre Rosenzweig, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny, souhaite réagir à nouveau.
Oui, je vais compléter ce que disait Marc Dreyfus en comprenant ce que dit notre interlocuteur qui est réserviste. Il a été mobilisé une seule fois sur 2 ans, mais le dispositif est en train de monter en puissance. Il faut que son offre de service s'inscrive dans des projets qui sont montés par les enseignants. Mais on peut penser que dans les temps qui vont venir, nous allons, comme réservistes, pouvoir proposer des projets aussi aux gens de l'éducation nationale, aux enseignants. On va co-construire des projets. Et ça va se faire territoire par territoire, circonscription par circonscription. Chaque établissement scolaire aura en face de lui un lot de 10, 20, 30, 40 réservistes qu'il saura comment mobiliser. Il y a de la confiance qui va se développer. Il y a de la reconnaissance réciproque qui va se mettre en place. On va monter des projets ensemble. On s'inscrit sur la durée. C'est pour ça que nous avons créé l'association des réservistes de l'éducation nationale. C'est pour nous inscrire dans la durée comme partenaire de l'éducation nationale et pour qu'effectivement cette belle idée, comme ça a été dit tout à l'heure, qui n'a pas de scorie actuellement. Moi, j'ai pas la moindre trace du moindre échec d'une intervention des réservistes dans ce créneau. Et ben, il faut que on alimente régulièrement le dispositif. Et je crois qu'il faut être optimiste et positif. Et on s'est mis à disposition. C'est aussi la démarche. Hein. Les réservistes se mettent à disposition de l'éducation nationale. Il faut accepter qu'elle ne nous mobilise pas dans les 5 minutes comme nous le souhaiterions.
Voilà.
J'entends que c'est pas facile à vivre.
Il faut être un peu patient.
Mais il faut être positif, il faut être optimiste. Et j'ajoute, dernier élément par rapport à la réflexion qu'on a eue tout à l'heure sur les différents dispositifs citoyens. Là, on n'est pas dans une démarche d'éducation des enfants. J'ai entendu parler de discipline. J'entends, le magistrat que je suis et ancien juge pour enfants, sait ce que ça veut dire. Mais là, on n'est pas dans une démarche d'éducation disciplinaire. On est dans une démarche de dialogue. Les jeunes, c'est leur constante, quel qu'ils soient, quel que soit leur milieu, ils ont besoin actuellement de rencontrer des adultes avec qui discuter. Des adultes, non pas qui les prennent d'égal à égal, mais qui acceptent de dialoguer, de répondre à leurs questions, de faire aussi des mea culpa. Il n'est pas question de dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il faut aussi assumer un certain nombre d'erreurs que le monde adulte a pu commettre, un certain nombre de dysfonctionnements, un certain nombre d'injustices, qu'il y ait un fossé entre les droits formels affichés par la loi et les droits réels. Il n'y a pas égalité homme-femme dans ce pays. Il y a du racisme, il y a toute une série de difficultés, les difficultés économique, et ben il faut oser assumer ces questions pour redonner de l'espoir à ces gosses, parce que si on leur donne pas de l'espoir, c'est soit les mafieux, soit ceux qui leur laissent miroiter des eldorados dangereux qui vont, j'allais dire, les ramasser au fil de l'eau et les embarquer dans les aventures délicates. Et quand on voit qu'une partie de la jeunesse de France ne croit plus dans la République, ne croit plus dans les projets qui étaient les nôtres, dans les utopies qui étaient les nôtres, ben ça veut dire qu'on a loupé un dialogue avec eux, avec cette jeunesse, et ben il faut aller vers. Il faut laisser les enseignants organiser cette démarche.
Merci beaucoup.
Il faut être modeste.
Jean-Pierre Rosenzweig, on repart au standard de France Inter. Cette fois, Karine est bien en ligne avec nous. Nous la saluons. Bonsoir, Karine.
Oui, bonsoir.
Vous êtes enseignante ?
Voilà, je suis enseignante dans un collège d'Amboise. Et donc, je voulais réagir par rapport à l'intervenant tout à l'heure, dont j'ai oublié le nom, qui disait que les enseignants ne connaissent pas assez la réserve citoyenne. Ben si, nous la connaissons et nous la sollicitons et nous savons comment tout cela fonctionne. J'attends Laetitia Gaillet, qui est inscrite à la
absolument.
Réserve citoyenne.
Et qui intervient, notre consoeur, absolument.
Voilà, tout à fait. Pour moi, l'intervention d'adultes, comme vient de le dire l'intervenant, là, c'est absolument indispensable dans la formation du citoyen. L'échange avec les adultes, c'est bien plus qu'un cours. Et ça apporte beaucoup plus qu'un cours. Là, j'ai fait intervenir la LICRA la semaine dernière avec Pascal Croci, qui est l'auteur de la BD à Auschwitz. C'était un témoignage et il y a eu un échange vraiment extraordinaire.
Eh bien, merci beaucoup, Karine, pour ce témoignage. Latifa et Benziaten, il y a une vraie demande de la part des jeunes quand vous arrivez dans les établissements ?
Oui. Oui, vraiment énorme. Et je vous assure, quand je suis en face de 100 élèves, des questions qu'ils posent pour les assurer, pour les faire rêver, pour aimer soi-même, pour aimer son pays, sur les valeurs, sur plein de choses, je vous assure, ils sont vraiment à l'écoute 2 heures sans bouger de leur place et un silence total. Et c'est ça qui est c'est incroyable parce que on a besoin de les aider. Franchement, on a besoin de venir de l'extérieur, d'apporter cet échange avec cette jeunesse d'aujourd'hui. Parce que moi, quand j'ai dit la discipline, elle est importante parce que quand ces jeunes, ils quittent l'école, et quand ils sont obligés d'aller à l'école professionnelle parce qu'ils n'ont pas réussi, et à peine un an, ils sont dans la rue, moi j'appelle c'est une bombe à retardement pour la société. Si on tend la main à cette jeunesse avant, peut-être on ne sera pas là aujourd'hui.
Merci beaucoup Latifa Ben Ziaten. Jean-Pierre Rosenzweig, paraît-il, souhaite réagir.
Non, mais c'est pour compléter, vous dire qu'effectivement, les jeunes sont très attentifs, mais moi, ceux que j'ai pu rencontrer, ils sont pas seulement attentifs, ils sont interpellatifs, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé notre intervention, ils n'arrivent pas les mains dans les poches, ils ont travaillé avec leurs enseignants, ils ont des questions à poser, et puis ils se contentent pas des réponses qu'on apporte. Certains, effectivement, j'allais dire, d'une manière générale, ils sont très sensibles à tout ce qu'on peut leur dire et leur apporter, mais ils interpellent, ils sont très toniques et très dynamiques. Et c'est pas un enseignement au sens, c'est pas un cours comme ça a été dit, c'est un dialogue. Et je pense que ça, c'est le plus important pour rejoindre ce que disait Madame il y a 20 secondes. Si on veut effectivement que ces jeunes aient le sentiment d'être reconnus, il faut une démarche participative, il faut les considérer comme ayant des convictions, comme ayant des points de vue. Ils sont très très sensibles à la justice et aux injustices.
Effectivement.
Il ne faut pas les laisser sans réponse. Voilà. Mais c'est toute la difficulté, ne pas les laisser sans réponse.
On repart au standard. C'est Philippe qui est en ligne avec nous. Bonsoir Philippe.
Oui, bonsoir.
Vous souhaitiez parler, vous, du service civique. Parce que c'est vrai qu'on a toute une offre ce soir, hein, toute une panoplie.
Voilà, relativement simple. On parle actuellement de la réserve citoyenne enseignante. Je voudrais revenir un poil sur la réserve citoyenne générale. Tout ce que j'ai réussi à trouver au niveau des limites d'âge, on se trouve à 35-40 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens qui ont plus que ça? Moi, j'ai 51 ans, je suis franchement très frappé par tout ce qui se passe.
Et vous avez envie de vous engager?
Et l'envie de bouger. Et qu'est-ce que je peux faire?
Bonne question, Yannick Blanc, vous pouvez peut-être nous répondre.
La limite d'âge de 35 ans, c'est la limite d'âge pour s'engager dans la réserve militaire. Cette limite d'âge, elle a été récemment portée à 40 ans par la gendarmerie. Et ça, ce sont pour des réserves opérationnelles, où on s'engage 20 jours par an avec une formation pour exercer des missions opérationnelles. Et le développement de la réserve va notamment permettre de soulager les militaires qui font de la surveillance dans les lieux publics, dans les rues, dans ce qu'on appelle l'opération
Sentinelle. Et pour Philippe alors, qu'est-ce que vous avez
pour
à lui proposer?
Il va avoir, à partir de l'année prochaine, une proposition d'engagement dans la réserve civique. C'est une réserve généraliste, organisée dans chaque département par le préfet, les collectivités locales et les associations. Et dans la réserve civique, il n'y aura pas de limite d'âge. Elle sera ouverte à l'ensemble des citoyens majeurs. Tous ceux qui auront l'envie de s'engager, quelque chose à apporter, du temps à consacrer, quel que soit leur niveau de formation ou leurs compétences, seront bienvenus dans la réserve civique.
Et on précise que concernant la réserve citoyenne de l'éducation nationale, alors là, il n'y a vraiment pas de limite d'âge, parce que si j'ai bien lu les documents concernant cette réserve, j'ai trouvé un intervenant de 94 ans ou même 95, le sociologue Edgar Morin, peut-être Marc Dreyfus, vous me le confirmez?
Je vous confirme, le plus jeune candidat validé à 18 ans et notre doyen, c'est Monsieur Edgar Morin de 95 ans et nous avons vraiment, la moyenne d'âge pour les réservistes est de 50 ans. Nous avons des retraités, mais nous n'avons pas que des retraités, nous avons aussi des étudiants. Et je crois que ce qui est important de signaler ce soir, c'est que effectivement, comme l'a dit Jean-Pierre Rosenzweig, la réserve citoyenne, ce n'est pas un cours. On ne vient pas faire un cours pour remplacer un enseignant qui ne ferait pas bien son enseignement. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'un accompagnement éducatif. Donc, le réserviste vient toujours en la présence d'un adulte, on ne laisse pas le réserviste seul avec les élèves, hein. C'est bien inscrit dans la charte du réserviste, et il n'est pas du tout obligé de se retrouver face à une classe entière. Il peut travailler avec une demi-classe, mais il peut aussi travailler avec un groupe constitué, par exemple le conseil de vie lycéenne ou le nouveau dispositif en collège, le conseil de vie collégienne, il peut travailler avec les élèves de la maison des lycéens, il peut travailler avec des élèves volontaires qui ont envie de créer un projet, par exemple créer le journal du collège ou le journal du lycée, créer un atelier théâtre, etc. etc. Les exemples foisonnent. Donc toute personne de bonne volonté qui a une compétence et qui répond au champ de compétences, alors bien sûr, il faut avoir un casier judiciaire vierge, on demande le B3 du casier judiciaire, il ne faut pas être inscrit au fichier des infractions judiciaires,
ça paraît la moindre des choses.
ça paraît la moindre des choses. Et par rapport à l'entrée du réserviste, le réserviste ne rentre pas comme ça dans l'établissement. Il a été contacté par un professeur, professeur d'école, professeur de collège ou de lycée, par un chef d'établissement, un principal proviseur ou un directeur d'école, par un inspecteur de l'éducation nationale. Il a été contacté donc par une de ces personnes. Ils ont échangé ensemble, ils ont monté un projet ensemble et ensuite le projet se déroule. Donc il y a un amont, on prépare, on explique le projet, on explique comment les choses vont se faire. Il y a la rencontre avec les jeunes, les élèves. Et puis ensuite, il y a bien sûr une évaluation qui est faite sur la réalisation. Et on se rend compte de plus en plus que, comme ça marche très bien, bah, le réserviste, il est de nouveau appelé à un autre moment dans l'année scolaire. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc n'hésitez surtout pas, vous pouvez encore vous inscrire, c'est très simple, sur le site La Réserve Citoyenne. Vous remplissez votre fiche et moi-même pour Créteil ou un collègue des autres académies prend contact avec vous par téléphone et échange sur votre candidature et bien souvent valide votre candidature.
Alors ça, c'est le plus important, c'est surtout vous répondez bien aux gens qui se proposent parce que franchement, on a des fiches hein, qui arrivent via Twitter, via franceinter.fr, des gens qui nous disent « j'ai fait ma lettre pour être dans la réserve, j'ai reçu une lettre d'accord, ça fait depuis tout ce temps, j'attends, pas de nouvelles » et Daniel n'est pas le seul, il y a Stéphane aussi par mail qui nous dit qu'il est en Moselle, il a deux collègues qui ont fait acte de candidature et qui n'ont toujours pas été rappelés. Jean-Pierre Rosenzweig, un petit mot peut-être à rajouter sur cette réserve citoyenne, sur la démarche elle-même?
Non, j'ajouterais à ce qu'a dit Marc Dreyfus, c'est qu'on intervient auprès des élèves, mais on intervient aussi auprès des enseignants, et ça c'est très important, on est en arrière-fond, un peu comme, j'ai dit de temps en temps, les magistrats, et vous en savez quelque chose, sont appelés par des journalistes pour réfléchir sur la justice, c'est pas pour autant qu'ils passent à l'antenne. Voilà. Donc on est là aussi pour aider les enseignants à monter des projets, et j'ajoute que... on a besoin de gens qui s'inscrivent dans la démarche. J'ajoute encore qu'il faut s'inscrire dans la durée. Il faut réfléchir à 5 ans ou 10 ans. Il faut que des gens viennent s'inscrire dans la réserve, qui prolongent ceux qui ont commencé à réagir, qui ont réagi, j'allais dire, par réflexe lors de la création de la réserve. Il faut s'inscrire à 5 ans ou 10 ans. Il faut que nous ayons, dans 5 ans ou 10 ans, 5 000, 6 000, 10 000 réservistes, citoyens réservistes, qui interviennent régulièrement dans l'établissement scolaire et dans les animations périscolaire. Et j'ajoute qu'effectivement, pour répondre à deux ou trois interlocuteurs tout à l'heure, ceux qui ont envie de s'inscrire et qui sont, j'allais dire, retenus et qui ont envie de participer de projets, peuvent, avec d'autres réservistes, monter des projets. Ils nous rejoignent à la CREN, qui est aussi ambassadeur de la réserve citoyenne, et à plusieurs, on peut monter des projets qu'on peut proposer à des établissements scolaires. On est au tout début d'une démarche, au tout début.
Merci Jean-Pierre Rosenzweig. En tout cas, on a bien compris le message, c'est du travail à long terme. Je précise, et je fais une petite parenthèse pour dire que France Inter aussi s'est engagée à son niveau. On n'en a pas parlé ce soir, mais je voulais quand même signaler l'opération Interclasse pour lutter contre notamment la théorie du complot, montrer aux jeunes dans les écoles que l'information, c'est pas n'importe quoi. Comment on vérifie une information, etc. Yannick Blanc, vous allez vous aussi faire une information pour un large public sur un site internet où on peut trouver toutes les informations selon les âges, selon ce qu'on peut faire dans la vie.
Il faut faire plus qu'un site internet. Il faut, pour que la réserve civique puisse devenir une habitude, se généraliser, il faut que les réservistes se l'approprient. La réserve, c'est pas quelque chose qui va être administré par l'État. C'est un lieu de coopération entre des bénévoles, des élus locaux, évidemment des agents de l'administration, des gens qui ont des responsabilités, mais il faut que les gens s'approprient, proposent des projets, se mobilisent. Donc, au-delà d'un site internet où il y a de l'information, il faut qu'il y ait des réseaux sociaux, de l'échange, des communautés d'action qui se créent dans les territoires pour que les gens élaborent des projets ensemble. Cela, nous allons le déployer en 2017.
Une petite question, tout le monde a sa place, parce que là, nous avons Patrice qui nous pose la question, est-ce que les personnes handicapées ont leur place aussi?
Bien sûr. Non seulement elles ont leur place, mais l'engagement est une des manières pour les personnes en situation de handicap de trouver leur place et de faire reconnaître leur place dans la société. On l'a vu hier avec des jeunes en service civique, des jeunes sourds en service civique qui sont au service de la gendarmerie pour faire de la prévention des risques sur Internet auprès des jeunes sourds. C'est vraiment une expérience très positive.
Latifa Benzaten, vous nous avez prouvé que tout le monde peut s'engager. Hein, faut pas avoir peur dans la vie quand on veut, on peut. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure.
C'est quand on a envie d'aider la société, on peut. Il faut vraiment avoir la volonté. Si on a la volonté, on peut aider cette jeunesse.
Et c'est très important. Merci beaucoup à vous, Latifa Benzaten. Un dernier mot, Yannick Blanc, ce message de Vincent sur Twitter. La réserve peut-elle défendre des valeurs républicaines quand le modèle de l'outrance s'impose à tous et entre parenthèses, USA mardi. Voilà, tout est dit. La dernière élection, visiblement, a inspiré Vincent.
Quand on va sur le terrain, quand on voit les gens qui s'engagent, on se rend bien compte que ce n'est pas ce modèle-là qui est en train de s'imposer, mais le modèle de l'engagement qui est bien différent.
Et on n'oublie pas non plus le monde associatif, parce que là on a parlé de tout ce qui est fait institutionnellement du côté de l'État. Mais vous qui avez bien connu le monde associatif, on n'oublie pas non plus les associations.
Oui, c'est pas que je l'ai bien connu, je le fréquente toujours, j'y suis toujours très engagé. Et la réserve, elle se construira en coopération entre la puissance publique et le monde associatif.
Un grand merci Yannick Blanc, au commissaire à l'engagement civique, Latifa Benziaten. Jean-Pierre Rosenzweig, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny, à la tête du collectif de la réserve citoyenne qui était en ligne, ainsi que Marc Dreyfus, référent pour l'Académie de Créteil. Merci à tous. C'est la fin de ce 18-20. Merci à Irène Ménahem, Marie-Claude Malartic, Jérémy Younes qui m'ont aidé à préparer cette émission. À la réalisation ce soir, Anne-Sophie Ladonne. À la technique, Arnaud Caillé, Philippe Duclos, Guillaume Roux. Merci aux standardistes de l'émission. N'oubliez pas, ce soir, entre 21h et 1h du matin, soirée spéciale en hommage à Léonard Cohen qui vient de nous quitter à l'âge de 82 ans.